Chapitre 13. L'arrestation. Réunie d'une façon si merveilleuse à la jeune fille qui me causait le matin même tant d'inquiétudes douloureuses, je ne pouvais croire à mon bonheur, et je m'imaginais que tout ce qui m'était arrivé n'était qu'un songe. Marie regardait d'un air pensif tantôt moi, tantôt la route, et ne semblait pas, elle non plus, avoir repris tous ses sens. Nous gardions le silence. Nos cœurs étaient trop fatigués d'émotion. Au bout de 2 heures, nous étions déjà rendus dans la forteresse voisine, qui appartenait aussi à Pougatchev. Nous y changeâmes de chevaux. À voir la célérité qu'on mettait à nous servir et le zèle empressé du cosaque barbu dont Pougatchev avait fait le commandant, je m'aperçus que grâce au babil du postillon qui nous avait amenés, on me prenait pour un favori du maître. Quand nous nous remîmes en route, il commençait à faire sombre. Nous nous approchâmes d'une petite ville où, d'après le commandement barbu, devait se trouver un fort détachement qui était en marche pour se réunir à l'usurpateur. Les sentinelles nous arrêtèrent et au cri de « Qui vive ?», notre postillon répondit à haute voix « Le compère du tsar qui voyage avec sa bourgeoise. » Aussitôt, un détachement de hussards russes nous entoura avec d'affreux jurements. « Sors, compère du diable !» me dit un maréchal des logis aux épaisses moustaches. « Nous allons te mener au bain, toi et ta bourgeoise. » Je sortis de la kibitka et demandai qu'on me conduisît devant l'autorité. En voyant un officier, les soldats cessèrent leurs imprécations et le maréchal des logis me conduisit chez le major. Alors là, Slavelitch me suivait en grommelant. « Oh, voilà, hein, le compère du tsar ! Mais nous tombons du feu, dans la flamme !»« Oh, Seigneur Dieu, comment cela finira-t-il ? » La kibitka venait au pas derrière nous. En 5 minutes, nous arrivâmes à une maisonnette très éclairée. Le maréchal des logis me laissa sous bonne garde et entra pour annoncer sa capture. Il revint à l'instant même et me déclara que sa haute seigneurie n'avait pas le temps de me recevoir, qu'elle lui avait donné l'ordre de me conduire en prison et de lui amener ma bourgeoise. « Mais qu'est-ce que cela veut dire ? » m'écriai-je furieux. « Est-il devenu fou ?»« Je ne puis le savoir, votre seigneurie, » répondit le maréchal des logis. « Seulement sa haute seigneurie a ordonné de conduire votre seigneurie en prison. » Et d'amener sa seigneurie à sa haute seigneurie, votre seigneurie. Je m'élançai sur le perron. Les sentinelles n'eurent pas le temps de me retenir, et j'entrai tout droit dans la chambre où 6 officiers de hussards jouaient au pharaon. Le major tenait la banque. Quelle fut ma surprise, lorsqu'après l'avoir un moment dévisagé, je reconnus en lui cet Ivan Ivanovitch Zourine qui m'avait si bien dévalisé dans l'hôtellerie de Simbirsk. « Est-ce possible ? » m'écriai-je. « Ivan Ivanovitch, est-ce toi ? » « Oh ben, Piotr Andreïtch, par quel hasard ? D'où viens-tu ? Bonjour, frère. Ne veux-tu pas porter une carte ? » ?»« Oh, merci. » « Fais-moi plutôt donner un logement. »« Quel logement te faut-il ? Reste chez moi. Je ne le puis, je ne suis pas seul. »« Eh bien, amène aussi ton camarade. »« Je ne suis pas avec un camarade, je suis avec une dame. »«
Avec une dame ? Où l'as-tu pêché, frère ?»
Après avoir dit ces mots, Zourine siffla d'un ton cirailleur, que tous les autres se mirent à rire et je demeurai tout confus.
« Eh bien, continua Zourine, il n'y a rien à faire, je te donnerai un logement. Mais c'est dommage, nous aurions fait nos bamboches comme l'autre fois. »« Oh là, garçon, pourquoi n'amène-t-on pas la commère de Pougatchev ? Est-ce qu'elle ferait l'obstinée ? Dis-lui qu'elle n'a rien à craindre, que le monsieur qui l'appelle est très bon, qu'il ne l'offensera d'aucune manière, et en même temps...
pousse la ferme par les épaules. Mais que fais-tu là? Dis-je à Gourine. De quel commerce Pougatchev parles-tu? C'est la fille du défunt capitaine Mironov. Je l'ai délivrée de sa captivité et je l'emmène maintenant à la maison de mon père où je la laisserai. Comment? Mais c'est donc toi qu'on est venu m'annoncer tout à l'heure? Oh, nom du ciel, qu'est-ce que cela veut dire? Je te raconterai tout cela plus tard, mais à présent, je t'en supplie, rassure la pauvre fille, que les hussards ont horriblement effrayé. Zourine fit à l'instant toutes ses dispositions. Il sortit lui-même dans la rue pour s'excuser auprès de Marie du malentendu involontaire qu'il avait commis et donna l'ordre au maréchal des logis de la conduire au meilleur logement de la ville. Je restai à coucher chez lui. Nous soupâmes ensemble et dès que je me trouvais seul avec Zourine, je lui racontai toutes mes aventures. Il m'écouta avec une grande attention et quand j'eus fini, hochant de la tête, « Tout cela est bien, frère, me dit-il, mais il y a une chose qui n'est pas bien. Pourquoi diable veux-tu te marier? En honnête officier, en bon camarade, je ne voudrais pas te tromper. Crois-moi, je t'en conjure. Le mariage n'est qu'une folie. Est-ce bien à toi de t'embarrasser d'une femme et de bercer des marmots? Crache là-dessus. Écoute-moi, sépare-toi de la fille du capitaine. J'ai nettoyé et rendu sûre la route de Simbirsk. Envoie-la demain à tes parents et toi reste dans mon détachement. Tu n'as que faire de retourner à Orenbourg. Si tu tombes de rechève dans les mains des rebelles, il ne te sera pas facile de t'en dépêtrer encore une fois. De cette façon, ton amoureuse folie se guérira d'elle-même et tout se passera pour le mieux. Quoique je ne fusse pas pleinement de son avis, cependant je sentais que le devoir et l'honneur exigeaient ma présence dans l'armée de l'impératrice. Je me décidai donc à suivre en cela le conseil de Zourine, c'est-à-dire à envoyer Marie chez mes parents et à rester dans sa troupe. Savelitch se présenta pour me déshabiller. Je lui annonçai qu'il eût à se tenir prêt à partir le lendemain avec Marie Ivanovna. Il commença par faire le récalcitrant. « Que dis-tu là, Seigneur? Comment veux-tu que je te laisse? Qui te servira? Et que diront tes parents ?» Connaissant l'obstination de mon ménin, je résolus de le fléchir par ma sincérité et mes caresses. « Mon ami Achib Salelitch, lui dis-je, ne me refuse pas. Sois mon bienfaiteur. Ici, je n'ai nul besoin de domestique. Et je ne serais pas tranquille si Marie Ivanovna se mettait en route sans toi. En la servant, tu me sers moi-même, car je suis fermement décidé à l'épouser dès que les circonstances me le permettront. » Savelitch croisa les mains avec un air de surprise et de stupéfaction inexprimable. « Se marier ? » répétait-il. « L'enfant veut se marier ? Mais que dira ton père et ta mère ? Que pensera-t-elle ? » Oh, ils consentiront sans nul doute, répondis-je, dès qu'ils connaîtront Marie Ivanovna. Je compte sur toi-même. Mon père et ma mère ont en toi pleine confiance. Tu intercéderas pour nous, n'est-ce pas ? » Le vieillard fut touché. « Oh, mon père, Piotr Andreïtch, me répondit-il, quoique tu veuilles te marier trop tôt, Marie Ivanovna est une si bonne demoiselle que ce serait péché que de laisser passer une occasion pareille. Je ferai ce que tu désires. Je la reconduirai, cet ange de Dieu, et je dirai en toute soumission à tes parents qu'une de telles fiancées n'a pas besoin de dot. » Je remerciai Savelitch et allai partager la chambre de Zourine. Dans mon agitation, je me remis à babiller. D'abord, Zourine m'écouta volontiers, puis ses paroles devinrent plus rares et plus vagues. Puis enfin, il répondit à l'une de mes questions par un ronflement aigu, et j'imitais son exemple. Le lendemain, quand je communiquai mes plans à Marie, elle en reconnut la justesse et consentit à leur exécution. Comme le détachement de Zourine devait quitter la ville le même jour et qu'il n'y avait plus d'hésitation possible, je me séparai de Marie après l'avoir confiée à Sevillitch et lui avoir donné une lettre pour mes parents. Marie Ivanovna me dit adieu, tout éplorée. Je ne pus rien lui répondre, ne voulant pas m'abandonner aux sentiments de mon âme devant les gens qui m'entouraient. Je revins chez Zourine, silencieux et pensif. Il voulut m'écayer, j'espérais me distraire. Nous passâmes bruyamment la journée, et le lendemain nous nous mîmes en marche. C'était vers la fin du mois de février. L'hiver, qui avait rendu les manœuvres difficiles, touchait à son terme, et nos généraux s'apprêtaient à une campagne combinée. Pougatchev avait rassemblé ses troupes et se trouvait encore sous Orenbourg. À l'approche de nos forces, les villages révoltés rentraient dans le devoir. Bientôt, le prince Galitzin remporta une victoire complète sur Pougatchev, qui s'était aventuré près de la forteresse de Talitchev. Le vainqueur débloqua Orenbourg, et il semblait avoir porté le coup de grâce à la rébellion. Sur ces entrefaites, Zourine avait été détaché contre des bashkirs révoltés qui se dissipèrent avant que nous eussions pu les apercevoir. Le printemps, qui fit déborder les rivières et coupa ainsi les routes, nous surprit dans un petit village tatar où nous nous consolions de notre inaction par l'idée que cette petite guerre d'escarmouches avec des brigands allait bientôt se terminer. Mais Pougatchev n'avait pas été pris. Il reparut bientôt dans les forges de la Sibérie. Il rassembla de nouvelles bandes et recommença ses brigandages. Nous apprîmes bientôt la destruction des forteresses de Sibérie, puis la prise de Kassan, puis la marche audacieuse de l'usurpateur sur Moscou. Zourine reçut l'ordre de passer la Volga. Je ne m'arrêterai pas au récit des événements de la guerre, seulement je dirai que les calamités furent portées au comble. Les gentilshommes se cachaient dans les bois, l'autorité n'avait plus de force nulle part, les chefs des détachements isolés punissaient ou faisaient grâce sans rendre compte de leur conduite. Tout ce vaste et beau pays était mis à feu et à sang. Que Dieu ne nous fasse plus voir une révolte aussi insensée et aussi impitoyable. Enfin, Pougatchev fut battu par Michelson et contraint à fuir de nouveau. Zourine reçut bientôt après la nouvelle de la prise du bandit et l'ordre de s'arrêter. La guerre était finie. Il n'était donc enfin possible de retourner chez mes parents. L'idée de les embrasser et de revoir Marie, dont je n'avais aucune nouvelle, me remplissait de joie. Je sautais comme un enfant. Zourine riait et me disait en haussant les épaules, « Attends, attends que tu sois marié. Tu verras que tout ira au diable. » Et cependant, je dois en convenir, un sentiment étrange empoisonnait ma joie. Le souvenir de cet homme couvert du sang de tant de victimes innocentes et l'idée du supplice qui l'attendait ne me laissaient pas de repos. « Yemela, Yemela !» me disais-je avec dépit. « Pourquoi ne t'es-tu pas jeté sur les baïonnettes ou offert au coup de la mitraille? C'est ce que tu avais de mieux à faire. » Cependant, Zourine me donna un congé. Quelques jours plus tard, j'allais me trouver au milieu de ma famille lorsqu'un coup de tonnerre imprévu vint me frapper. Le jour de mon départ, au moment où j'allais me mettre en route, Zourine entra dans ma chambre, tenant un papier à la main et d'un air soucieux. Je sentis une piqûre au cœur. J'eus peur, sans savoir de quoi. Le major fit sortir mon domestique et m'annonça qu'il avait à me parler. « Qu'y a-t-il ? » demandai-je avec inquiétude. « Un petit désagrément, » répondit-il en me tendant son papier. « Lis ce que je viens de recevoir. » C'était un ordre secret adressé à tous les chefs de détachement d'avoir à m'arrêter partout où je me trouverais et de m'envoyer sous bonne garde à Kazan devant la commission d'enquête créée pour instruire contre Pougatchev et ses complices. Le papier me tomba des mains. « Allons, dit Zourine, mon devoir est d'exécuter l'ordre. Probablement que le bruit de tes voyages, fait dans l'intimité de Pougatchev, est parvenu jusqu'à l'autorité. J'espère bien que l'affaire n'aura pas de mauvaise suite et que tu te justifieras devant la commission. Ne te laisse point abattre et pars à l'instant. » Ma conscience était tranquille, mais l'idée que notre réunion était reculée pour quelques mois encore me serrait le cœur. Après avoir reçu les adieux affectueux de Zourine, je montai dans ma téléga, deux hussards s'assirent à mes côtés, le sabre nu, et nous prîmes la route de Khassan. Chapitre 14 et dernier. Le jugement. Je ne doutais pas que la cause de mon arrestation ne fût mon éloignement sans permission d'Orenbourg. Je pouvais donc aisément me disculper, car non seulement on ne nous avait pas défendu de faire des sorties contre l'ennemi, mais on nous y encourageait. Cependant, mes relations amicales avec Pougatchev semblaient être prouvées par une foule de témoins et devaient paraître moins suspectes. Pendant tout le trajet, je pensais aux interrogatoires que j'allais subir et arrangeais mentalement mes réponses. Je me décidai à déclarer devant le juge la vérité, toute pure et toute entière, bien convaincu que c'était à la fois le moyen le plus simple et le plus sûr de me justifier. J'arrivai à Khassan, malheureuse ville, que je trouvais dévastée et presque réduite en cendres. Le long des rues, à la place des maisons, se voyaient des amas de matières calcinées et des murailles sans fenêtres ni toitures. Voilà la trace que Pougatchev y avait laissée. On m'amena à la forteresse, qui était restée intacte, et les hussards, mes gardiens, me remirent entre les mains de l'officier de garde. Celui-ci fit appeler un maréchal ferrant, qui me mit les fers aux pieds en les rivant à froid. De là, on me conduisit dans le bâtiment de la prison, où je restai seul dans un étroit et sombre cachot qui n'avait que les quatre murs et une petite lucarne garnie de barres de fer. Un pareil début ne présageait rien de bon. Cependant, je ne perdis ni mon courage ni l'espérance. J'eus recours à la consolation de tous ceux qui souffrent, et après avoir goûté pour la première fois la douceur d'une prière élancée d'un cœur innocent et plein d'angoisse, je m'endormis paisiblement, sans penser à ce qu'il y adviendrait de moi. Le lendemain, le geôlier vint m'éveiller en m'annonçant que la commission me mandait devant elle. Deux soldats me conduisirent à travers une cour à la demeure du commandant, s'arrêtèrent dans l'antichambre et me laissèrent gagner seul les appartements intérieurs. J'entrai dans un salon assez vaste. Derrière la table, couverte de papier, se tenaient deux personnages, un général avancé en âge, d'un aspect froid et sévère, et un jeune officier aux gardes, ayant au plus une trentaine d'années, d'un extérieur agréable et dégagé. Près de la fenêtre, devant une autre table, était assis un secrétaire, la plume sur l'oreille et courbé sur le papier, prêt à inscrire mes dépositions. L'interrogatoire commença. On me demanda mon nom et mon état. Le général s'informa si je n'étais pas le fils d'Andrei Petrovitch Grigniev, et sur ma réponse affirmative, il s'écria sévèrement « C'est bien dommage qu'un homme si honorable ait un fils tellement indigne de lui. » Je répondis avec calme que, quelles que fussent les inculpations qui pesaient sur moi, j'espérais les dissiper sans peine par un aveu sincère de la vérité. Mon assurance lui déplut. « Tu es un hardi compère, me dit-il en fronçant le sourcil. Mais nous en avons vu bien d'autres. » Alors le jeune officier me demanda par quel hasard et à quelle époque j'étais entré au service de Pougatchev et à quelle sorte d'affaires il m'avait employé. Je répondis avec indignation qu'étant officier gentilhomme, je n'avais pu me mettre au service de Pougatchev et qu'il ne m'avait chargé d'aucune sorte d'affaire. « Comment donc s'est-il fait, reprit mon juge, que l'officier, le gentilhomme, ait seul été gracié par l'usurpateur pendant que tous ses camarades étaient lâchement assassinés? Comment s'est-il fait que le même officier et gentilhomme ait pu vivre en fête et amicalement avec les rebelles et recevoir du scélérat en chef des cadeaux consistant en une pelisse, un cheval et un demi-rouble? D'où provient une si étrange intimité, et sur quoi peut-elle être fondée, si ce n'est sur la trahison, ou tout au moins sur une lâcheté criminelle et impardonnable? » Les paroles de l'officier aux gardes me blessèrent profondément, et je commençai avec chaleur ma justification. Je racontai comment s'était faite ma connaissance avec Pougatchev dans la steppe, au milieu d'un ouragan, comment il m'avait reconnu et fait grâce à la prise de la forteresse de Bielogorsk. Je convins qu'en effet, j'avais accepté de l'usurpateur un touloupe et un cheval, mais j'avais défendu la forteresse de Bielogorsk contre le scélérat jusqu'à la dernière extrémité. Enfin, j'invoquais le nom de mon général qui pouvait témoigner de mon zèle pendant le siège désastreux d'Orenbourg. Le sévère vieillard prit sur la table une lettre ouverte qu'il se mit à lire à haute voix. En réponse à la question de votre Excellence sur le compte de l'enseigne Grigniev, qui se serait mêlé aux troubles et serait entré en relation avec le brigand, relation réprouvée par la loi du service et contraire à tous les devoirs du serment, j'ai l'honneur de déclarer que le dit enseigne Grigniev s'est trouvé au service à Orenbourg depuis le mois d'octobre 1773 jusqu'au 24 février de la présente année, jour auquel il s'absenta de la ville et depuis lequel il ne s'est plus représenté. Cependant, on a ouï dire aux déserteurs ennemis qu'il s'était rendu au camp de Pougatchev et qu'il l'avait accompagné à la forteresse de Bielogorsk, où il avait été précédemment en garnison. D'un autre côté, par rapport à sa conduite, je puis... » Ici, le général interrompit sa lecture et me dit avec dureté. « Eh bien, que diras-tu maintenant pour ta justification ?» J'allais continuer comme j'avais commencé et révéler ma liaison avec Marie aussi franchement que tout le reste. Mais je ressentis soudain un dégoût invincible à faire une telle déclaration. Il me vint à l'esprit que si je la nommais, la commission la ferait comparaître, et l'idée d'exposer son nom à tous les propos scandaleux des scélérats interrogés et de la mettre elle-même en leur présence... Cette horrible idée me frappa tellement que je me troublai, balbutiai et finis par me taire. Mes juges, qui semblaient écouter mes réponses avec une certaine bienveillance, furent de nouveau prévenus contre moi par la vue de mon trouble. L'officier aux gardes demanda que je fusse confronté avec le principal dénonciateur. Le général ordonna d'appeler le coquin d'hier. Je me tournai vivement vers la porte pour attendre la réparition de mon accusateur. Quelques moments après, on entendit résonner des fers et entra Schwabrin. Je fus frappé du changement qui s'était opéré en lui. Il était pâle et maigre. Ses cheveux, naguère noirs comme du jais, commençaient à grisonner. Sa longue barbe était en désordre. Il répéta toutes ses accusations d'une voix faible mais ferme. D'après lui, j'avais été envoyé par Pougatchev en espion à Orenbourg. Je sortais tous les jours jusqu'à la ligne des tirailleurs pour transmettre des nouvelles écrites de tout ce qui se passait dans la ville. Enfin, j'étais décidément passé du côté de l'usurpateur, allant avec lui de forteresse en forteresse et tâchant par tous les moyens de nuire à mes complices de trahison pour les supplanter dans leur place et mieux profiter des largesses du rebelle. Je l'écoutais jusqu'au bout en silence et me réjouis d'une seule chose, il n'avait pas prononcé le nom de Marie. Est-ce parce que son amour-propre souffrait à la pensée de celle qu'il avait dédaigneusement repoussée, ou bien est-ce que dans son cœur brûlait encore une étincelle du sentiment qui me faisait taire moi-même? Quoi que ce fût, la commission n'entendit pas prononcer le nom de la fille du commandant de Bielogorsk. J'en fus encore mieux confirmé dans la résolution que j'avais prise, et quand les juges me demandèrent ce que j'avais à répondre aux inculpations de Schwabrin, je me bornai à dire que je m'en tenais à ma déclaration première et que je n'avais rien à ajouter à ma justification. Le général ordonna que nous fussions emmenés. Nous sortîmes ensemble. Je regardais Schwabrin avec calme et ne lui dis pas un mot. Il sourit d'un sourire de haine satisfaite, releva ses fers et doubla le pas pour me devancer. On me ramena dans la prison, et depuis lors je n'eus plus à subir de nouvel interrogatoire. Je ne fus pas témoin de tout ce qui me reste à apprendre au lecteur, mais j'en ai entendu si souvent le récit que les plus petites particularités en sont restées gravées dans ma mémoire, et qu'il me semble que j'y ai moi-même assisté. Marie fut reçue par mes parents avec la bienveillance cordiale qui distinguait les gens d'autrefois. Dans cette occasion qui leur était offerte donner asile à une pauvre orpheline, ils voyaient une grâce de Dieu. Bientôt, ils s'attachèrent sincèrement à elle, car on ne pouvait la connaître sans l'aimer. Mon amour ne semblait plus une folie même à mon père, et ma mère ne rêvait plus que l'union de son Petroucha à la fille du capitaine. La nouvelle de mon arrestation frappa d'épouvante toute ma famille. Cependant, Marie avait raconté si naïvement à mes parents l'origine de mon étrange liaison avec Pougatchev que non seulement ils ne s'en étaient pas inquiétés, mais que cela les avait fait rire de bon cœur. Mon père ne voulait pas croire que je puisse être mêlé dans une révolte infâme dont l'objet était le renversement du trône et l'extermination de la race des gentilshommes. Il fit subir à Sivelitch un sévère interrogatoire dans lequel mon ménin confessa que son maître avait été l'hôte de Pougatchev et que le scélérat, certes, s'était montré généreux à son égard. Mais en même temps, il affirma sous un serment solennel que jamais il n'avait entendu parler d'aucune trahison. Les vieux parents se calmèrent un peu et attendirent avec impatience de meilleures nouvelles. Mais pour Marie, elle était très agitée et ne se taisait que par modestie et par prudence. Plusieurs semaines se passèrent ainsi. Tout à coup, mon père reçoit de Pétersbourg une lettre de notre parent, le prince B. Après les premiers compliments d'usage, il lui annonçait que les soupçons qui s'étaient élevés sur ma participation au complot des rebelles ne s'étaient trouvés que trop fondés, ajoutant qu'un supplice exemplaire aurait dû m'atteindre, mais que l'impératrice, par considération pour les loyaux services et les cheveux blancs de mon père, avait daigné faire grâce à un fils criminel, et qu'en lui faisant remise d'un supplice infamant, elle avait ordonné qu'il fût envoyé au fond de la Sibérie pour y subir un exil perpétuel. Ce coup imprévu faillit tuer mon père. Il perdit sa fermeté habituelle et sa douleur, muette d'habitude, s'exhala en plaintes amères. « Comment ?» ne cessait-il de répéter tout hors de lui-même. « Comment mon fils a participé au complot de Pougatchev ? Mais Dieu juste, jusqu'où ai-je vécu ?» L'impératrice lui fait grâce de la vie, mais est-ce plus facile à supporter pour moi? Ce n'est pas le supplice qui est horrible. Mon aïeul a péri sur l'échafaud pour la défense de ce qu'il vénérait dans le sanctuaire de sa conscience. Mon père a été frappé avec les martyrs Volinsky et Khrouchtchev. Mais qu'un gentilhomme trahisse son serment, qu'ils s'unissent à des bandits, à des scélérats, à des esclaves révoltés. Honte, honte éternelle à notre race. » Effrayé de son désespoir, ma mère n'osait pas pleurer en sa présence et s'efforçait de lui rendre du courage en parlant des incertitudes et de l'injustice de l'opinion. Mais mon père était inconsolable. Marie se désolait plus que personne, bien persuadée que j'aurais pu me justifier si je l'avais voulu. Elle le doutait, elle se doutait du motif qui me faisait garder le silence et se croyait la seule cause de mes infortunes. Elle cachait à tous les yeux ses souffrances, mais ne cessait de penser aux moyens de me sauver. Un soir, assis sur son sofa, mon père feuilletait le calendrier de la cour. Mais ses idées étaient bien loin de là et la lecture de ce livre ne produisait pas sur lui l'impression ordinaire. Il sifflait une vieille marche. Ma mère tricotait en silence et ses larmes tombaient de temps en temps sur son ouvrage. Marie, qui travaillait dans la même chambre, déclara tout à coup à mes parents qu'elle était forcée de partir pour Pétersbourg et qu'elle les priait de lui en fournir les moyens. Ma mère se montra très affligée de cette résolution. « Mais pourquoi, lui dit-elle, veux-tu aller à Pétersbourg? Toi aussi, tu veux donc nous abandonner ?» Marie répondit que son sort dépendait de ce voyage et qu'elle allait chercher aide et protection auprès des gens en faveur, comme fille d'un homme qui avait péri victime de sa fidélité. Mon père baissa la tête. Chaque parole qui lui rappelait le crime supposé de son fils lui semblait un reproche poignant. « Pas, lui dit-il enfin avec un soupir, nous ne voulons pas mettre obstacle à ton bonheur. Que Dieu te donne pour mari un honnête homme et non pas un traître taché d'infamie. » Il se leva et quitta la chambre. Restée seule avec ma mère, Marie lui confia une partie de ses projets. Ma mère l'embrassa avec des larmes, en priant Dieu de lui accorder une heureuse réussite. Peu de jours après, Marie partit avec Palashka et le fidèle Savilitch, qui, forcément séparé de moi, se consolait en pensant qu'il était au service de ma fiancée. Marie arriva heureusement jusqu'à Sofia, et apprenant que la cour habitait en ce moment le palais d'été de Tsar Koïesselo, elle résolut de s'y arrêter. Dans la maison de poste, on lui donna un petit cabinet derrière une cloison. La femme du maître de poste vint aussitôt basiller avec elle, lui annonça pompeusement qu'elle était la nièce d'un chauffeur de poils attaché à la cour, et l'initia à tous les mystères du palais. Elle lui dit à quelle heure l'impératrice se levait, prenait le café, allait à la promenade, quel grand seigneur se trouvait alors auprès de sa personne, ce qu'elle avait daigné dire la veille à table, qui elle recevait le soir. En un mot, l'entretien d'Anna Vlassilievna semblait une page arrachée aux mémoires du temps et serait très précieuse de nos jours. Marie Ivanovna l'écoutait avec grande attention. Elles allèrent ensemble au jardin impérial où Anna Vlassilievna raconta à Marie l'histoire de chaque allée et de chaque petit pont. Toutes les deux regagnèrent ensuite la maison, enchantées l'une de l'autre. Le lendemain de très bonne heure, Marie s'habilla et retourna dans le jardin impérial. La matinée était superbe. Le soleil dorait de ses rayons les cimes des tilleuls qu'avait déjà jauni la fraîche haleine de l'automne. Le large lac étincelait immobile. Les cygnes, qui venaient de s'éveiller, sortaient gravement des buissons du rivage. Marie Ivanovna se rendit au bord d'une charmante prairie où l'on venait d'ériger un monument en l'honneur des récentes victoires du comte Roumiantsev. Tout à coup, un petit chien de race anglaise courut à sa rencontre en aboyant. Marie s'arrêta effrayée. En ce moment, résonna une agréable voix de femme. « N'ayez point peur, lui dit-elle, il ne vous mordra pas. » Marie aperçut une dame assise sur un petit banc champêtre vis-à-vis du monument et alla s'asseoir elle-même à l'autre bout du siège. La dame l'examinait avec attention et, de son côté, après lui avoir jeté un regard à la dérobée, Marie put la voir à son aise. Elle était en peignoir blanc du matin, en bonnet léger et en petit mantelet. Cette dame paraissait avoir 50 ans. Sa figure pleine et haute en couleur exprimait le calme et une gravité tempérée par le doux regard de ses yeux bleus et son charmant sourire. Elle rompit la première le silence. « Vous n'êtes sans doute pas d'ici, » dit-elle. « Il est vrai, madame, je suis arrivée hier de la province. Vous êtes arrivée avec vos parents ?»« Non, madame, seule. »«
Seule ? Oh, mais vous êtes bien jeune pour voyager seule. »«
Je n'ai ni père ni mère. » « Ah, vous êtes ici pour affaires. Oui, madame, je suis venu présenter une supplique à l'impératrice. »« Vous êtes orpheline. Probablement vous avez à vous plaindre d'une injustice ou d'une offense. »« Oh non, madame, je suis venu demander grâce et non justice. » « Permettez-moi une question. » « Qui êtes-vous ? Je suis la fille du capitaine Mironov. »«
Du capitaine Mironov ? De celui qui commandait une des forteresses de la province d'Orenbourg ?
Oui, madame. »
La dame parut émue. « Pardonnez-moi, continua-t-elle d'une voix encore plus douce, de me mêler de vos affaires, mais je vais à la cour. » « Expliquez-moi l'objet de votre demande. Peut-être me sera-t-il possible de vous aider. »
Marie se leva et salua avec respect. Tout dans la dame inconnue l'attirait involontairement et lui inspirait de la confiance. Marie prit dans sa poche un papier plié. Elle le présenta à sa protectrice inconnue qui le parcourut à voix basse. Elle commença par lire d'un air attentif et bienveillant.
mais soudainement son visage changea, et Marie, qui suivait des yeux tous ses mouvements, fut effrayée de l'expression sévère de ce visage, si calme et si gracieux un instant auparavant. « Vous priez pour Grief, dit la dame d'un ton glacé. « L'impératrice ne peut lui accorder le pardon. Il a passé à l'usurpateur, non comme un ignorant crédule, mais comme un vaurien, dépravé et dangereux. « Ce n'est pas vrai !» s'écria Marie. « Comment ? Ce n'est pas vrai ?» répliqua la dame, qui rougit jusqu'aux yeux. « Ce n'est pas vrai ! Devant Dieu, ce n'est pas vrai ! Je sais tout ! Je vous conterai tout ! C'est pour moi seul qu'il s'est exposé à tous les malheurs qui l'ont frappé. Et s'il ne s'est pas disculpé devant la justice, c'est parce qu'il n'a pas voulu que je fusse mêlé à cette affaire. » Et Marie raconta avec chaleur tout ce que le lecteur sait déjà. La dame l'écoutait avec une attention profonde. « Où êtes-vous logé ? » demanda-t-elle quand la jeune fille eut terminé son récit. Et en apprenant que c'était chez Anna Vassilievna, elle ajouta, avec un sourire, « Ah, je sais. Adieu, ne parlez à personne de notre rencontre. J'espère que vous n'attendrez pas longtemps la réponse à votre lettre. » À ces mots, elle se leva et s'éloigna par une allée couverte. Marie Ivanovna retourna chez elle, remplie d'une riante espérance. Son hôtesse la gronda de sa promenade matinale, nuisible, disait-elle, pendant l'automne à la santé d'une jeune fille. Elle apporta le samovar, et devant une tasse de thé, elle allait reprendre ses interminables propos sur la cour, lorsqu'une voiture armoriée s'arrêta devant le perron. Un laquais à la livrée impériale entra dans la chambre, annonçant que l'impératrice daignait mander en sa présence la fille du capitaine Mironov. Anna Vassilievna fut toute bouleversée par cette nouvelle. « Oh, mon Dieu ! » s'écria-t-elle, « l'impératrice vous demande à la cour. Mais comment donc a-t-elle su votre arrivée ? Et comment vous présenterez-vous à l'impératrice, ma petite mère ? Je crois que vous ne savez même pas marcher à la mode de la cour. Je devrais vous conduire, ou ne faudrait-il pas envoyer chercher la fripière pour qu'elle vous prêtât sa robe jaune à falbala ? » Mais le laquais déclara que l'impératrice voulait que Marie Ivanovna vînt seule et dans le costume où on la trouverait. Il n'y avait qu'à obéir, et Marie Ivanovna partit. Elle pressentait que notre destinée allait s'accomplir. Son cœur battait avec violence. Au bout de quelques instants, le carrosse s'arrêta devant le palais, et Marie, après avoir traversé une longue suite d'appartements vides et somptueux, fut enfin introduite dans le boudoir de l'impératrice. Quelques seigneurs qui entouraient leur souveraine ouvrirent respectueusement passage à la jeune fille. L'impératrice, dans laquelle Marie reconnut la dame du jardin, lui dit gracieusement « Je suis enchantée de pouvoir exaucer votre prière. J'ai fait tout régler, convaincue de l'innocence de votre fiancé. Voilà une lettre que vous remettrez à votre futur beau-père. » Marie, tout en larmes, tomba aux genoux de l'impératrice, qui la releva et la baisa sur le front. « Je sais, dit-elle, que vous n'êtes pas riche, mais j'ai une dette à acquitter envers la fille du capitaine Mironov. Soyez tranquille sur votre avenir. » Après avoir comblé de caresses la pauvre orpheline, l'impératrice la congédia et Marie repartit le même jour pour la campagne de mon père, sans avoir eu seulement la curiosité de jeter un regard sur Pétersbourg. Ici se terminent les mémoires de Piotr Andreïtch Grineff. Mais on sait par des traditions de famille qu'il fut délivré de sa captivité vers la fin de l'année 1774, qu'il assista au supplice de Pougatchev, et que celui-ci, l'ayant reconnu dans la foule, lui fit un dernier signe avec la tête qui, un instant plus tard, fut montrée au peuple, inanimée, ensanglantée. Bientôt après, Piotr Andreïtch devint l'époux de Marie Ivanovna. Leur descendance habite encore le gouvernement de Simbirsk, dans la maison seigneuriale du village de... On montre la lettre autographe de Catherine II, encadrée sous une glace. Elle est adressée au père de Piotr Andreïtch et contient, avec la justification de son fils, des éloges donnés à l'intelligence et au bon cœur de la fille du capitaine.